Philosophie politique par le père Philippe à Saint-Joseph, le 8 mai 85.
Je ne vais pas continuer Machiavel, je crois que je vous ai montré suffisamment ce point de vue de la virtuosité politique. Il y a cette note, quand on dit que Machiavel ne regarde plus la nature de l'homme et seulement comment il vit, que recouvre cette notion de nature et comment est-elle atteinte? Pas chez Machiavel, chez nous. C'est toute la philosophie qui nous aide à comprendre ce que c'est que la nature humaine. Alors je ne peux pas le faire ici. Mais nous le verrons quand, après avoir fait cette enquête historique, nous essayons de comprendre. Vous voyez, quand vous regardez Aristote, le premier philosophe qui a vraiment précisé ce qu'est la nature humaine, je crois que c'est Aristote. On n'a pas répété Aristote, mais on a essayé de comprendre ce qu'est pour lui la nature humaine. Le problème d'Aristote, c'est une parenthèse, si vous voulez, mais puisque la question est posée, il faut y répondre. Le problème d'Aristote, c'est d'essayer de comprendre ce qu'est la nature au niveau physique, ce que c'est que le vivant, et comment le vivant est esprit. Autrement dit, ces trois niveaux que nous voyons dans la philosophie d'Aristote qui nous permet de préciser ce que c'est que la nature humaine. La découverte de la nature, forme, nature, matière, à partir de ce qui est mis. Tout le monde physique. Donc là, nous sommes au niveau fondamental. Qu'est-ce que c'est que la nature? La physis. Ce que c'est que la nature? La nature, c'est un principe immanent, un principe d'orientation dans le mouvement. Le principe d'un mouvement naturel. Et c'est dans ce sens-là qu'on pourra parler d'un mouvement naturel. Quel est le mouvement naturel du feu? Les anciens prenaient ça. Le mouvement naturel de la terre. Le mouvement naturel de ce que représentent les réalités qui sont autour de nous. Donc, la nature, c'est un principe. Un principe, c'est pas la réalité, la nature. Hein. C'est l'intelligence qui saisit un principe, la nature. Ce principe est déterminé, et ce principe implique une indétermination. La matière, c'est un principe d'indétermination radicale. C'est pour ça que dans tout mouvement naturel, il faut discerner le mouvement naturel, le mouvement artificiel. Ce qui n'est pas si commode que ça à faire. Discerner que représente un mouvement naturel qui implique une détermination et qui implique nécessairement une indétermination. Puisque tout mouvement implique, après une détermination, une indétermination qui permet une autre détermination, et ainsi de suite. Donc il faut distinguer dans la réalité un mouvement naturel, un mouvement artificiel. C'est très facile. Ordinairement indéterminé dans le monde habituel. Oui. Une automobile, c'est un mouvement artificiel. Surtout qu'elle est en panne. C'est un mouvement artificiel. Et puis quand vous poussez l'automobile, ça c'est un mouvement naturel. Hein. Et l'automobile n'a plus que son poids et vous avez son poids. Vous avez fait cette expérience constante, il suffit d'y réfléchir. Pour le mouvement naturel, le mouvement artificiel. Il y a un mouvement artificiel. Ça, c'est le premier discernement. Si on ne fait pas ce discernement, on ne peut pas se dire ce que c'est que la nature. À partir du mouvement naturel, vous précisez ce qu'est la nature comme principe de détermination et d'indétermination. La nature forme, la nature matière. C'est ça qui est au point de départ de tout conception de la nature. C'est la première découverte de ce que c'est que la nature. Donc, à partir, et vous déterminez par là ce qu'est le feu, ce qu'est l'eau. Je vous avais dit, ce professeur de philosophie qui est mort maintenant, mais qui était un flamand à Québec, ce qui faisait quelque chose de bien, c'était de Coninck, et dans son année où il avait l'année sabbatique, il est arrivé à Fribourg parce que je le connaissais par des amis. Alors, il me disait, quand on me demande qu'est-ce que je fais durant mon année sabbatique, je réponds, j'essaie de comprendre ce que c'est que l'eau. Alors, on regarde comme un imbécile. Parce que ordinairement, on dit, ah, je fais un travail sur telle chose particulière. Là, je comprends ce que c'est que l'eau. Qu'est-ce que c'est que le feu? C'est vrai, vous pouvez y réfléchir toute votre vie. Alors, si vous êtes un peu Saint-François, vous direz, ma sœur, l'eau, et mon frère, le feu. Parce que le frère est toujours le feu, la sœur est toujours l'eau. Alors, vous voyez, c'est quand même assez merveilleux de voir les deux, n'est-ce pas? L'eau et le feu. Vous pouvez réfléchir indéfiniment ce que c'est que le feu et l'eau. Et c'est élémentaire, hein, c'est élémentaire. C'est quelque chose de fondamental. Il faut comprendre cela. Nous portons en nous l'eau et le feu. On découvre la nature. Première découverte philosophique, hein, au niveau philosophie spéculative. Puis vous découvrez le vivant. Vous découvrez le vivant. Le vivant, c'est celui qui se meut. C'est l'automobile. C'est exactement ça, le vivant. Mais l'automobile, c'est la caricature du vivant. Hein? Parce que vous comprenez bien. Automobile, se mouvoir, tout simplement. Donc c'est se mouvoir. Le vivant, c'est celui qui se meut. Et vous distinguez dans le vivant l'âme et le corps. Donc, vous retrouvez la même distinction, nature, forme, nature, matière, à un niveau différent. Le vivant implique une nature. Et tous les biologistes le savent très bien. Le développement du vivant, d'une petite araignée, n'est pas le même que le développement de l'éléphant. La gestation de l'araignée et la gestation de l'éléphant, parce que c'est toujours à partir de la gestation quand il s'agit de distinguer les vivants, parce que c'est à partir du problème du point de départ et du terme. Un vivant se découvre dans sa croissance. Et c'est toujours dans la croissance du vivant que vous devez découvrir le rythme de croissance. C'est pour ça que c'est si important, hein, un règlement de vie. Que c'est un règlement de croissance. Et quand on passe d'une vie ouverte à tout, spiritualité de l'arbre avant, à une spiritualité particulièrement déterminée d'un noviciat, ça peut faire des crises de croissance. Hein. On voit très très bien, parce que c'est pas la même chose, il faut découvrir un rythme nouveau, parce qu'on passe d'un niveau à un autre. C'est très mystérieux le vivant, hein, parce qu'il a un rythme. La nature a-t-elle un rythme? Ça, c'est une grave question. Question intéressante à se poser. La nature a-t-elle du repos? La nature n'a pas de repos. C'est avec le vivant qu'on retrouve le repos. Le vivant se repose. C'est le propre du vivant de se reposer. C'est pour ça qu'on aime tellement dormir. Pas quand on est gosse, parce que quand on est gosse, la vie dépasse le point de vue du repos. Mais quand on est plus grand, on aime de se reposer. Vous voyez, c'est le repos. Le vivant aime de dormir. Hein, c'est extraordinaire, ça, c'est extraordinaire. Il aime de dormir. Il ne faut pas qu'il dorme de trop, parce qu'il dormirait indéfiniment. Il serait marmotte. Il y a des vivants qui sont marmottes. Et toute leur vie, et c'est une maladie d'être marmotte, hein, en dehors de la marmotte. Pour la marmotte, c'est son rythme. C'est le rythme de vie de la marmotte. Hein. Alors, il y a un rythme de vie d'être éveillé et de se reposer. Et chacun d'entre nous, il faut découvrir ça, c'est le vivant. Il se meut et il se repose. Oh, comme on est bien. Il se détend et il se tend. Vous vous détendez et vous vous tendez. Alors, savoir si vous vous tendez pour vous détendre ou si vous vous détendez pour vous tendre. Vous savez bien, ça c'est le rythme profond. Est-ce que vous vous reposez pour être éveillé ou est-ce que vous êtes éveillé pour dormir? Il y a des gens qui commencent à finaliser le soir. Il y a des gens qui commencent à finaliser le matin. Ça dépend, ça, des spiritualités. N'est-ce pas? La spiritualité du vivant. Il dort, il se repose. C'est très important, ça, parce que c'est fondamental. Vous comprenez? C'est l'aspect biologique. Et c'est quand même quelque chose de très très profond. Le vivant, c'est celui qui se meut, qui se repose. L'âme, le corps. Alors vous voyez, on voit très bien que le corps est plutôt du repos et l'âme est plutôt de se mouvoir. Normalement, c'est comme ça. Il y a en nous un poids corporel. C'est pour ça qu'il faut de temps en temps maigrir un peu pour avoir un tout petit peu plus d'élan. Et quand le poids est trop fort, alors à ce moment-là, on aime de se reposer. Il y a aussi un équilibre entre le corps et l'âme. Il y a un équilibre. L'âme ne peut pas habiter totalement le corps quand ça ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Alors l'âme n'habite pas totalement. Il y a une harmonie entre les deux. Très important, ça. C'est pour ça que dès qu'on intervient sur l'aspect génétique, et aujourd'hui c'est ce qu'on cherche, on peut faire des monstres. Le monstre, c'est quoi? C'est le déséquilibre entre l'âme et le corps. C'est que l'âme n'arrive pas à former totalement le corps. Et quand l'âme n'arrive pas à former totalement le corps, il y a un déséquilibre. Un être équilibré, c'est un être dans lequel l'âme informe parfaitement le corps. Alors il peut faire ce qu'il veut. Alors on dira, il est déséquilibré par rapport à l'équilibre de quelqu'un, parce que chacun d'entre nous, nous avons notre équilibre. Et l'équilibre de chacun n'est pas le même que celui de son voisin. Donc pour le voisin, on est toujours un peu déséquilibré. C'est forcé, ça ne peut pas être autrement. Parce que l'un a un équilibre dormant-tendeur, l'autre un équilibre dormant-tendeur. Alors on risque d'être déséquilibré, l'équilibre est toujours individuel. C'est pas l'espèce. L'espèce n'a pas besoin d'être équilibrée. Mais l'équilibre est le point de vue de l'individu. Donc, il y a la croissance, il y a le rythme, il y a tout ça dans le vivant. Et le vivant implique une nature. Il y a une nature du vivant. Troisième aspect, le point de vue de l'esprit. C'est ici où intervient la nature humaine. La nature humaine, c'est l'esprit habitant la nature. Ça, la personne humaine. Alors, vous voyez tout le problème de la personne humaine et de la nature. Et ça vient de l'esprit. Et l'esprit aussi, il se meut. C'est propre de l'esprit de se mouvoir. Alors, est-ce que l'esprit se repose? L'esprit contemple. La contemplation, c'est le repos de l'esprit. Ah, c'est merveilleux une fois qu'on a compris ça. Plus besoin de se reposer, plus qu'à contempler. Parce que c'est la contemplation qui est le repos de l'esprit. Si on était parfaitement homme dans la nature humaine avec l'esprit, vous voyez qu'il y aurait un double repos. Il y aurait le repos du corps et le repos de l'esprit. C'est pour ça qu'on dit toujours que la contemplation, c'est un analogiquement, c'est un repos, parce qu'on touche sa fin, on atteint le terme. Et alors, par le fait même, il y a la grande détente. Il n'y a rien qui repose plus que la contemplation. Il n'y a rien qui équilibre plus que la contemplation. C'est si vraiment on contemple, c'est un repos intérieur. Pas la méditation. Pas la méditation. La méditation, c'est se mouvoir. Et la méditation, on lutte contre le sommeil. On dit qu'au contraire, le repos de la contemplation, c'est vraiment un repos. Il y a un repos profond. Alors vous avez là ce que entend la nature humaine. Qu'est-ce que c'est que la nature humaine? voyez comme c'est pas commun de découvrir tout de suite ce que c'est que la nature humaine. Il faut découvrir la nature numéro un au niveau physique, la nature au niveau du vivant, la nature au niveau de l'esprit. Il y a les trois niveaux dans la nature humaine. Le poids de la nature physique, l'immanence du vivant et le dépassement de l'esprit. Et vous avez les trois moments. C'est pour ça que la nature humaine, c'est la nature la plus complexe qui soit. C'est une nature d'une complexité unique. Parce que c'est le vivant le plus complexe. Et c'est en même temps celui qui veut l'unité la plus grande par la contemplation. La contemplation simplifie et unifie. Ma nature humaine se simplifie et s'unifie grâce à la contemplation. C'est-à-dire la victoire de l'esprit sur la matière. C'est ça la contemplation. C'est l'esprit qui peut assumer le corps. Et faire que le corps soit un tout petit peu tranquille pendant ce temps-là. N'est-ce pas ? C'est pour ça qu'il faut prendre la position du lotus. C'est pour que le corps soit parfaitement tranquille et paisible et que pendant ce temps-là, l'esprit, lui, il est vraiment saisi par la réalité qui dépasse tout et qui permet de me contempler. Puisque je contemple Dieu. Et c'est Dieu. Pas moi-même. L'inversion de la contemplation, c'est la chose la pire. Se contempler soi-même, c'est pas le repos du tout. C'est un faux repos. Oui. Tandis que contempler celui qui me dépasse, aimer celui qui me dépasse, alors à ce moment-là, ça peut me donner un repos. Il y a un repos dans l'amitié, il y a un repos dans la contemplation. Véritable repos, c'est dans la contemplation. Donc la nature humaine, c'est quoi ? Ce sont les déterminations de l'âme spirituelle. Je ne peux pas découvrir ce que c'est que la nature humaine si je ne regarde pas l'âme spirituelle. C'est une âme spirituelle qui a des finalités propres. Et c'est une âme spirituelle qui informe un corps. Il y a donc toujours dans la nature humaine une finalité et des déterminations. Et des limites. Il y a les trois qu'il faut regarder. Finalité, détermination, limite. Finalité, c'est l'esprit qui me montre quelles sont mes finalités. La nature humaine est capable de contempler. La nature humaine est capable d'aimer d'un amour d'amitié. Les déterminations, la nature humaine implique la complexité du vivant. Toute cette complexité du vivant organique, et la nature humaine implique des limites. Les limites qui viennent du corps. Je sais par expérience que je ne peux pas aller plus loin. Si je vais plus loin, je détraque tout. Alors évidemment, c'est pas toujours commode hein, de bien voir la différence entre la limite et la détermination et la finalité. Mais je crois qu'il faut voir les trois. Et les trois font partie de la nature humaine. Et chacun d'entre nous, nous avons un capital de vie qui représente notre nature humaine. Alors, voyez que la nature humaine se découvre par induction. Puisque c'est un principe. Première induction, découvrir de la nature forme et la nature matière. Une induction, hein, voyez bien ça. Le mouvement philosophique qui consiste à aller au-delà de ce que je constate immédiatement pour découvrir un principe, pour découvrir une cause. La nature est une cause déterminée, une cause d'indétermination. L'âme et le corps, l'âme est découverte aussi par induction. Et l'esprit de l'homme, et l'âme spirituelle est découverte aussi par induction. Donc, vous voyez, c'est vraiment un principe de détermination et d'ordre, un principe qui me permet de m'orienter vers ma fin, et un principe qui assume un co-principe qui implique le point de vue de la matière et le point de vue du corps. Par le corps, je vois les limites dans lesquelles je suis. On est un être limité. L'esprit, d'une certaine manière, est ouvert à l'infini. Et je crois toujours par l'esprit que je peux tout faire. Eh bien non. La nature humaine a ses limites. La nature humaine a un rythme de croissance. Il y a un sommet, un acmé, au niveau du corps. Au niveau de l'esprit, il n'y a pas de sommet. Vous pouvez toujours croître. Vous pouvez toujours être plus intelligent. Vous pouvez toujours aller plus loin dans l'amour. Il n'y a pas de limite. C'est ça qui dira, ah, vous voyez, il y a un déséquilibre fondamental dans l'homme. Vous êtes limité par votre corps et vous êtes infini dans votre esprit. Alors ça ne va pas du tout. Eh bien oui, parce que l'esprit assume le corps. Alors, assumant le corps, il comprend ses limites et il peut se servir de ses limites, non pas pour les supprimer, mais les limites nous conditionnent. Toujours le conditionnement se prend du côté des limites. Il nous conditionne et nous devons dépasser ce conditionnement pour atteindre la véritable finalité. Alors nous devons être suffisamment lucides vis-à-vis de notre conditionnement. Vous voyez, c'est complexe la nature humaine, hein, c'est pas simple du tout. Alors, que fait Machiavel ? Machiavel n'a pas de philosophie. Il n'a que un aspect descriptif de ce que représentent les échecs et les réussites au niveau politique. Là, il est très fort. Il est très informé de ce côté-là. Il a bien regardé les échecs et les réussites. Et il décrit cela pour essayer de découvrir d'où viennent ces échecs, d'où viennent ces réussites. Et donc, il regarde uniquement le conditionnement de l'être humain. Les limites et les possibilités de dépasser ces limites. C'est pour ça que c'est une espèce d'équilibre politique. Mais la nature humaine et la finalité n'existent pas. Parce que vous ne pouvez découvrir la finalité que par l'esprit. Vous ne pouvez découvrir la finalité que par la nature humaine impliquant l'esprit. Quand vous ne regardez que le conditionnement, vous ne regardez que les limites. Et en ne regardant que les limites, vous ne voyez pas la finalité propre de la nature humaine. Or, le point de vue politique ne peut se comprendre profondément que quand je vois le rapport entre le conditionnement et la finalité. Je crois que le vrai point de vue politique, c'est ça en définitive. C'est d'essayer de comprendre ce que je peux demander à un être humain du côté de son efficacité. Ce que je peux saisir de limite dans un être humain et en même temps voir l'éclosion de sa finalité. Hein ? Une véritable politique consiste à permettre à l'homme de découvrir sa finalité et donc de développer la nature humaine, de permettre à la nature humaine d'être pleinement elle-même, de saisir à travers chaque individu les exigences profondes de sa nature. Évidemment, c'est très rare. C'est pas parce que c'est très rare qu'on ne peut pas philosophiquement réfléchir dessus. Le point de vue de Machiavel est beaucoup plus commun. La plupart des hommes considèrent la politique uniquement du côté de la réussite, uniquement du côté de l'efficacité. Mais vous comprenez, quand vous êtes du côté de l'efficacité et du côté de la réussite, vous ne regardez pas le développement profond de l'homme, qui est un développement spirituel, qui est le développement de l'esprit, qui est le point de vue de la découverte de la finalité. Et c'est pour ça que quand on ne regarde que le conditionnement, on est conduit immédiatement à ramener la politique à des partis politiques. Alors ça serait aussi très intéressant. Parce que ça, c'est la chute complète du point de vue politique. Aujourd'hui, on peut dire qu'en France, il n'y a plus de politique. Au sens philosophique, il n'y a plus que des partis et des partisans. Et ces partis et ces partisans rivalent l'un par rapport à l'autre en disant « Je serai plus efficace que vous », toutes les propagandes. « Je serai plus efficace que vous. Attendez un tout petit peu. Laissez-moi le pouvoir et vous verrez toutes les promesses d'efficacité qui ne sont jamais tenues. Parce que c'est forcé. On ne peut pas être prophète quand on est partisan. C'est impossible. On augmente la chose. Donc le point de vue proprement politique qui consiste à regarder le bien de l'homme n'existe plus. Il faut le reconnaître. Ça n'existe plus. Très difficile du reste, hein, parce que quand on est en phase d'une politique qui depuis des années est une politique de parti, ça divise et l'unité profonde du pays disparaît. Alors vous n'avez plus qu'un facteur d'opposition et les gens se définissent en opposition les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'ils ne savent même plus ce qu'ils sont. Parce que se définir en opposition les uns par rapport aux autres, c'est ne plus savoir ce qu'on fait. Il n'y a plus un pouce de finalité. La dégradation du point de vue politique, c'est de ne plus regarder que les partis. Alors, on oublie le bien commun, regarde le point de vue de la nature humaine. C'est permettre à la nature humaine de découvrir sa finalité, c'est ça le bien commun. C'est permettre aux hommes d'avoir suffisamment confiance les uns envers les autres pour savoir qu'il y a quelque chose de commun entre eux, qu'on n'est pas seulement des partisans. Quand on est uniquement des partisans, il n'y a plus rien de commun. On est l'un adversaire de l'autre, rival de l'autre. Et c'est pour ça qu'on se définit en opposition. Mais c'est un phénomène, je crois qu'on doit être très attentif à ça. On doit être très attentif à ça, assister aux jours d'élection, n'est-ce pas ? Les soirées d'élection. C'est un guignol de premier ordre. C'est un guignol de premier ordre. C'est extraordinaire, mon Dieu. C'est terrible, hein, ça vous fait mal au cœur parce qu'on se dit voilà où on est, où on en est. Mais c'est un guignol de premier ordre de voir comment. Ah, alors on reçoit les nouvelles de tous les départements. On a gagné, là, on voit tout de suite les filles. C'est extraordinaire. Il n'y a pas un guignol plus grand que celui-là. De voir ces choses-là, parce qu'on voit ces gens qui sont là à se jeter les uns les autres. Qu'est-ce que ça représente comme amitié ? Rien du tout. Le jour où l'autre devient quelque chose qui est dangereux, parce qu'il diminue l'efficacité, on le renvoie promener. Alors, on est en face de programmes de partisans. Et on n'est plus en face d'un programme politique. Bien comprendre, hein, le point de vue politique implique un regard sur le tout et le bien-être de l'homme. Alors qu'un programme partisan ne regarde qu'un aspect du conditionnement humain dans l'ordre de l'efficacité. Vous promettez qu'avec ce gouvernement, si vous l'élisez, il y aura nécessairement moins de chômage. Je comprends très bien que le chômage est un problème énorme dans l'équilibre économique d'un pays. Mais attention, regardez la cause. Vous voulez guérir des effets. Vous ne pouvez pas guérir des effets si vous ne guérissez pas la cause. Et personne ne regarde la cause. D'où ça vient? Comment se fait-il qu'il y a ça? Essayez de repenser la chose. Personne ne le fait. Parce qu'on est devant, vous voyez, une espèce de concours. Vous savez, c'est comme ceux qui sont pris par la rapidité des événements. Alors, ils ne peuvent plus regarder les causes. Il faut suffisamment de recul pour regarder les causes. Il faut suffisamment de confiance les uns envers les autres pour essayer de comprendre quel est le bien-être de l'homme. Redonner à l'homme une possibilité de se découvrir. Aristote dit que le point de vue du bien commun, c'est le zen, le bien vivre. C'est merveilleux de voir ça, c'est le bien vivre, permettre à l'homme de développer ses virtualités. Et quel est le bien-être d'une communauté? Permettre à chaque individu de développer en lui ce qu'il y a de meilleur. Quand il s'agit d'une communauté religieuse et chrétienne, c'est de pouvoir atteindre de la manière la plus profonde l'unité avec le Christ, l'unité avec Marie. C'est ce qui, de fait, donne le bien commun. Le bien commun de l'Église, c'est le Christ. Et le bien commun de toute communauté religieuse, c'est le Christ. Et de permettre à chacun des membres d'être uni au Christ, d'être plus uni à lui. Ça, c'est le bien commun. Le bien commun d'une communauté politique, humaine, c'est le développement le plus parfait dans l'ordre de la finalité. Ce n'est pas l'État qui vous dicte les finalités, ce n'est pas le point de vue politique qui vous dicte les finalités, mais permet des dispositions telles que chaque individu pourra les atteindre. Parce que c'est la nature humaine qui découvre ses finalités. C'est la nature humaine dans ce cas-là de plus profond. Bon, je ferme la parenthèse. Au point de vue de la nature de l'homme, alors essayez petit à petit, parce que ça c'est un point de vue qui est tellement important, de découvrir toujours la différence entre le conditionnement de l'homme et la finalité de l'homme. Le jour où vous arriverez vraiment à découvrir ça au plus intime de vous-même et de le découvrir par rapport à la nature humaine, je crois que c'est comme ça qu'on doit, du reste, poser le problème philosophique, le problème politique aujourd'hui. On doit le poser par rapport à la personne humaine, et donc par rapport à la nature humaine dans la personne humaine. Alors, voyons maintenant un problème extrêmement intéressant, difficile, parce que justement très intéressant, le problème du libéralisme philosophique. Il y a deux choses devant lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Économie libérale, économie dirigée. Économie libérale, et puis le marxisme. Alors, cherchons, je ne parle pas ici au point de vue économique, cherchons l'origine philosophique. Et pour découvrir l'origine philosophique, il faut découvrir ce que c'est que le libéralisme philosophique. Il y a une position d'un libéralisme philosophique. Vous voyez bien que cette position du libéralisme philosophique consiste à ramener la nature humaine à la liberté. Liberté égale nature humaine. C'est ça, au fond, le libéralisme philosophique. Qui fait que la liberté devient la norme de tout ce qui est humain. La liberté devient, comme si vous voulez, la source de tout ce qui est humain. C'est la mesure de l'humain. Alors vous voyez tout de suite que c'est très vieux ce libéralisme philosophique. Il est né avec Descartes. Les philosophies de la liberté, on a lancé une collection, les philosophies de la liberté, et les philosophies de la liberté, Descartes en premier lieu. Et Sartre en dernier lieu. De Descartes à Sartre. Alors, vous voyez bien que Descartes est le grand-père. Pourquoi ? Parce que pour Descartes, ce qu'il y a de plus divin en nous, c'est la liberté. Descartes arrive presque à dire, qu'entre notre liberté et la liberté de Dieu, c'est presque univoque. Vous êtes Dieu si vous êtes libre. Et dans la mesure où vous êtes libre, vous êtes Dieu. La liberté est au-dessus de tout pour Descartes. Liberté et infini. Parce que la liberté, évidemment, a quelque chose d'infini. Descartes, en faisant ça, rompt avec toute une tradition philosophique. Il se rattache évidemment à quelques ancêtres théologiques, ça ne peut pas être autrement. Et l'ancêtre théologique de Descartes, tout le monde le sait, n'est-ce pas ? Alors, on voit bien la source cachée de Descartes. Il a eu des maîtres suarésiens, et ces maîtres suarésiens étaient anti-occamiens, mais pour être bien anti-occamiens, ils donnaient la main avec Occam. Alors, on voit très bien le métaxu entre les deux, parce que Descartes a eu des maîtres suarésiens. Et pour Descartes, la liberté est au cœur. Ce n'est pas l'amour. Pour Descartes, la volonté est premièrement une volonté d'efficacité. La volonté n'est pas premièrement une capacité d'aimer. C'est une volonté d'efficacité. Par le fait même, la liberté et le libre arbitre est au-delà de la volonté. C'est quelque chose de plus fondamental, puisque la volonté est de l'ordre de l'efficacité. Avant la liberté, avant cette volonté d'efficacité, il y a la liberté. Et l'amour, parce qu'on en parle, l'amour est au niveau des passions. Alors voyez, il y a une trilogie que Descartes là invente, une espèce, la trinité cartésienne, si vous voulez, liberté, efficacité, amour. C'est intéressant à voir ça. Je crois que ce serait très très beau de voir Descartes dans cette perspective-là, parce que ça nous aiderait à comprendre ce qu'il y a d'essentiel et en même temps ce qu'il y a de si nouveau dans Descartes. L'équilibre entre les trois, l'ordre entre les trois. La liberté, c'est ce qu'il y a de souverain et de premier. La volonté d'efficacité, elle naît de cette liberté. Et l'amour est au niveau passion. L'amour, c'est une question de sentiment. Les passions, c'est du sentiment. Les gens disent « j'aime » quand ils sentent qu'ils aiment. C'est du sentiment. Alors que l'amour s'enracine dans une volonté spirituelle. Un amour spirituel implique cette volonté d'aimer. Aujourd'hui, c'est tout à fait, hein, quand vous regardez ça, dites une volonté d'aimer. Alors, non, pas du tout. Je ne veux pas aimer, parce que si je veux aimer, je tue l'amour. Pas du tout. Vous permettez à l'amour d'être lui-même. Vous voyez, le sentiment, c'est de l'ordre passionnel. C'est pour ça que ça passe. Il y a des gens qui ont aimé passionnément à un certain âge, et puis quelques années après, ça change. Nos passions ne sont pas les mêmes à 20 ans, à 30 ans et à 70 ans. Hein, n'oubliez pas ça. Tandis que notre volonté d'aimer est la même. Et c'est pour ça que c'est la volonté d'aimer qui va toujours plus loin. C'est la volonté d'aimer qui nous permet de dépasser nos sentiments. Nos sentiments passionnels. C'est très bien les sentiments passionnels, il ne faut pas les supprimer. Hein. C'est très très bien. Si vous avez des passions, nous en avons tous. Et le développement de l'intelligence augmente les passions. Mon novice doit être plus passionné en terminant son noviciat qu'en y entrant. Ça, c'est normal, parce qu'on les décante, les passions. Et donc, elles sont plus elles-mêmes. Et on les sent mieux. Et plus on avance, plus on sent mieux ses passions. Parce que les passions, c'est quelque chose de bon. Mais les passions demandent d'être dépassées par l'intelligence et par une volonté d'aimer qui assume les passions. C'est pas en opposition, qui assume les passions. Il faut les assumer. Alors, retenez cette espèce de trinité cartésienne. Liberté, volonté d'efficacité, amour passionnel. Bien, vous allez trouver dans le libéralisme philosophique comment au cœur de tout, c'est toujours la liberté. Bien, je crois que le père, Descartes c'est le grand-père, hein, le père du libéralisme philosophique, c'est John Locke. Je crois. Et c'est l'alliance souterraine entre la France et l'Angleterre. Hein, c'est curieux ça. Il y a une alliance souterraine entre les deux. Parce que c'est vrai ça, c'est très curieux. Je vous prends ce point de départ parce que c'est intéressant d'essayer d'entrer dans cette position de Locke et de ce que représente, ce qu'on dit, l'individualisme libéral. Mais j'aime mieux dire que c'est la philosophie libérale. C'est le point de départ d'une philosophie libérale qui se veut en même temps politique. Descartes n'a pas fait beaucoup de politique, hein. Pas beaucoup, Descartes. Descartes n'a pas poussé jusqu'au bout ses intuitions. Et je crois que nous trouvons dans John Locke, nous trouvons quelque chose de très particulier. C'est très différent de Descartes, il ne faut pas dire du tout qu'il est disciple de Descartes. Pas du tout, ce serait très faux. Sur beaucoup de points, il est en opposition violente. Ce qui m'intéresse dans John Locke, c'est qu'il revient à Aristote. Tandis que Descartes tourne le dos à Aristote. Vous voyez qu'il y a multiples manières d'être aristotélicien. Très curieux, et c'est ça qui est intéressant dans John Locke, c'est qu'il veut revenir exactement d'une certaine manière, comme Marx, comme Lénine. Ils veulent revenir. C'est ça qui serait intéressant, hein, dans l'histoire de la philosophie, de voir ceux qui veulent revenir à Aristote et ceux qui descendent le fleuve avec Platon. Et alors vous avez les néo-platoniciens, alors ils se laissent porter. Les néo-platoniciens, ils se laissent porter parce que le courant est tellement fort. Tandis que ceux qui sont aristotéliciens veulent toujours revenir à la source. Ça, c'est la manie des aristotéliciens. Ils veulent revenir à la source. Et là, vous avez toute une série. Descartes tourne le dos à Aristote, il le dit explicitement. En sens-là, il est tout à fait différent de John Locke. Mais quelque chose de semblable, c'est que le point de vue de la liberté est au cœur de ces deux philosophies. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment les uns aboutissent à mettre la liberté au-dessus de tout par le point de vue des idées. Et John Locke met la liberté au-dessus de tout par l'expérience. Alors, ils se rejoignent là par deux manières tout à fait différentes de font d'y aboutir, si vous voulez. Alors, je vous dis quelques renseignements sur John Locke. Né en 1632. Locke est donc âgé dans ce tournant particulier, parce qu'en 1689, la princesse Marie, fille de Jacques II, roi détrôné et épouse de Guillaume d'Orange, vous savez tout ça parce que ça c'est de l'histoire, donc vous le savez très bien, c'est intéressant de voir l'enracinement dans l'histoire. Le nouveau roi quitte la Hollande. Pour rejoindre, donc, le jeune roi quitte la Hollande pour rejoindre en Angleterre. Donc, on voit la princesse Marie va quitter la Hollande pour rejoindre en Angleterre son mari et se faire couronner conjointement avec lui. Elle emmène dans ses valises, hein, vous voyez bien. Elle emmène sur son vaisseau l'Isabella, un affable gentleman, médecin et philosophe, c'est intéressant, du nom de John Locke, qui les circonstances ont conduit à jouer un rôle actif de conseiller politique. Vous voyez le petit triangle. Médecin, philosophe, politique. Et c'est la parenté avec Aristote, il est médecin. Le père d'Aristote était médecin. Les médecins, qui sont de vrais médecins, sont des hommes d'expérience. Toujours. Ils aiment de regarder les réalités et réfléchissent sur l'expérience. C'est en ce sens-là qu'ils sont aristotéliciens. Parce qu'ils réfléchissent sur l'expérience. Alors, ils le sont plus ou moins, ils vont plus ou moins loin avec Aristote, mais ils ont ça. Alors, c'est très intéressant de voir que Locke, il est parti en Hollande, de l'Angleterre, et il revient. Donc, né en 1632, Locke est donc âgé à ce tournant capital de sa vie, de 56 ans. Lui aussi regagne sa patrie, dont il a dû s'exiler pendant plusieurs années. Il a vécu en Hollande comme exilé. L'exil permet la réflexion. Une réflexion amère. N'est-ce pas ? Toujours quand on est exilé, c'est pas drôle. Mais ça permet la réflexion, une réflexion d'une tonalité particulière. Donc il a été rejeté du gouvernement de l'Angleterre. Il a été en Hollande. Et quand il repart avec tous ses manuscrits sur l'Isabella, avec la princesse Marie. C'est pas si mal ce retour en Angleterre. Et il va éditer successivement toutes ses œuvres dans son retour. Mais c'est en exil qu'il va réfléchir là-dessus. Alors il y a deux grands livres de Locke qu'il faudra essayer de comprendre, parce que c'est intéressant. Il y a un premier livre de critique sur l'entendement humain. C'est un livre très intéressant. L'entendement humain. Comment comprendre le point de vue de la connaissance. Oui. C'est un vrai philosophe qui commence par la critique sur le point de vue de la connaissance humaine. Jusqu'où va la connaissance humaine? Puis ensuite, l'application au point de vue politique. Donc vous êtes en face d'une critique et d'une politique. Jusqu'où va aller cette critique? Et puis, quelles sont les applications politiques?
Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles.